France Inter. Le masque et la plume. L'actualité littéraire avec les nouveaux romans de Neige Sino, Pascal Quignard, Philippe Villain, Adèle Guion et Hugues Pagan, tel est le sommaire du masque de ce jour. Sur scène et face au public, ils sont quatre pour en débattre. Elisabeth Philippe du Nouvel Obs, Arnaud Vivian de la revue Regard. Arnaud, tu lances une émission littéraire en ligne sur le site de cette revue et sur YouTube. Quel est le titre de l'émission ?
Alors, j'ai trouvé Tire-Lire. J'ai pas...
Ah, c'est toi qui as trouvé ?
Oui, j'ai trouvé Tire-Lire comme titre d'émission. Je voulais pas, entre guillemets, qui me semblait vraiment faible. Et donc voilà, j'ai cherché quelque chose avec lire, donc Tire-Lire.
Tire-Lire, donc, sur YouTube, animé par Arnaud Vivian. Patricia Martin de France Inter est là aussi, à ta gauche. Et merci d'accueillir Bernard Poirette, auteur d'un podcast qui s'intitule « C'est à lire » où tu traites, Bernard, de l'actualité du polar chaque vendredi.
Absolument.
Bienvenue.
Merci beaucoup.
Des autobiographies, un roman familial, un polar, un conte, le masque et la plume, c'est parti. Dans le courrier de la semaine, vous entrez sur cette scène en défendant ou en passant à la sulfateuse aussi, plusieurs romans débattus ici. Thierry Lequertier réagit aux critiques, je cite, « peu emballantes pour la cité aux murs incertains » de Haruki Murakami. Le verdict de cet auditeur est le suivant. « Vos chroniqueurs ne savent pas lire cet auteur, tant pis pour eux. C'est vrai que la poésie, la contemplation ou l'onirisme ne sont pas choses faciles à appréhender, cordialement cela dit. » Claire Trémobille de Rouen entre dans le débat pour « J'emporterai le feu » de Leïla Slimani et elle te répond en deux points, Arnaud. 1. En quoi rédiger un roman au passé simple est-il un problème ? L'excellent livre de Nathalie Azoulay, « Toutes les vies de Théo » est au passé simple, lui aussi. 2. On se moque de savoir que Leïla Slimani est deux sœurs et non une, que sa mère soit ORL et pas gynéco, vu qu'il ne s'agit ni d'une autobiographie, ni d'une autofiction. Et le troisième point s'adresse à moi. Allez, prenez-moi dans votre équipe. Je n'avais encore jamais pris la plume pour écrire au masque, mais là, je ne pouvais pas ne pas réagir, commence Agnès Fayolle. Cette auditrice me rappelle d'abord que Jean-Christophe Granger n'écrit ni polar ni roman noir, mais des romans policiers, à la limite, précise-t-elle, et elle poursuit. Pour filer la métaphore culinaire de Monsieur Chalumeau, je dirais que les ouvrages de Monsieur Granger sont à la littérature noire ce que la cuisine industrielle est à une alimentation saine. Il y a des tas d'additifs chimiques et beaucoup trop de sel. On peut apprécier, chacun est libre, mais il ne faut pas venir se plaindre après qu'on digère mal et qu'on a des remontées acides. Je n'en crois pas, mon 87.8, s'exclame Pierre, 87.8 étant la fréquence de France Inter à Paris. Seriez-vous passé à côté de l'Atlas inutile de Paris ? Mon libraire, heureusement, non. En 100 cartes et quelques mots bien pesés, son auteur Vincent Peria réenchante la capitale avec malice, les adresses de Baudelaire, les lieux où faire pipi, ça alors, le sens du vent, d'où vient l'eau du robinet, tout y passe. Un peu de poésie dans un monde de brutes. On commence avec le nouveau livre de Neige Sino intitulé « La Realidad ». Il paraît un an et demi après « Triste Tigre », couvert de prix dans le monde entier. Un roman qui a été un événement à la fois littéraire et sociétal, dans lequel Neige Sino racontait et pensait les viols commis par son beau-père entre ses 7 ans et ses 14 ans. Avec « La Realidad », Neige Sino revient sur ses années mexicaines, sur ses allers-retours au Chiapas, où elle a finalement vécu 20 ans. Le livre commence au début des années 2000 par un premier voyage entre Necha, la narratrice, et son ami espagnol Maga. Dans son sac à dos, Maga glisse deux volumes de théorie marxiste qu'elle a l'ambition de remettre au sous-commandant Marcos. Le sous-commandant Marcos est installé dans un village qui s'appelle justement La Realidad. Comme Triste Tigre, La Realidad est un livre hybride à la fois carnet de voyage, roman, essai sur la révolution zapatiste, l'altérité, le séjour au Mexique d'Antonin Artaud dans les années 30, ou encore une expérience fondatrice pour Neige Sino sa participation à un mouvement exclusivement féminin, les Rencontres internationales des femmes en lutte au Chiapas. C'est un roman qu'elle a d'abord écrit en espagnol, il a conduit à l'écriture de Triste Tigre, et ensuite, Neige Sino a traduit la réalité en français, à l'exception de son titre, et c'est le livre qu'on a entre les mains aujourd'hui. Elisabeth.
Tu l'as dit, c'est à nouveau un récit hybride. Il y a ces voyages au Mexique, ces voyages au Chiapas, dont l'un, celui dont tu parlais avec les femmes en lutte, va être finalement la matrice de Triste Tigre. Et même si elle doute de l'utilité de la littérature et de l'écriture face à une telle violence, et en fait, ce doute par rapport à la puissance ou l'impuissance de la littérature, c'est vraiment la question qui traversait déjà Triste Tigre et qu'on retrouve à nouveau dans La Realidad, puisque ce nom de village, La Realidad, c'est aussi une métaphore de ce qu'est la littérature, en tout cas de la façon dont Neige Sino conçoit la littérature, à savoir parfois quelque chose qui ne peut pas appréhender la réalité, tout comme elle n'arrive pas, elle n'atteint jamais ce village
chose qui
nommé La Realidad.
Échappe à la littérature.
C'est ça. Par plein de détours, c'est ça qui est formidable avec Neige Sino, c'est qu'elle prend plein de digressions, tu l'as dit, elle parle aussi bien d'Antonin Artaud, il y a des pages absolument passionnantes aussi de dialogues virtuels avec Jean-Marie Le Clésio, avec l'œuvre de Le Clésio, puisque lui aussi a vécu longtemps au Mexique. Elle prend tous ces détours, et pour autant, elle ne nous perd jamais. Il y a une scène très belle, c'est juste une parenthèse dans le livre, elle se promène avec un Mexicain dont elle est tombée amoureuse lors d'un de ses premiers voyages au Mexique. Ils se promènent en montagne, ils sont perdus, et elle n'ose pas lui dire qu'elle, elle sait comment se repérer et retrouver leur chemin parce qu'elle a vécu longtemps en montagne. Et elle sait qu'il suffit de prendre de la hauteur et d'observer le paysage pour pouvoir faire marche arrière. Et c'est exactement, elle écrit exactement de la même manière, elle écrit comme elle marche en montagne. Et c'est vraiment une pensée en marche, la pensée de Neige Sino, une pensée en mouvement. Et elle nous emmène dans des sentiers peut-être un peu plus escarpés, un peu plus tortueux, des réflexions vraiment extrêmement profonde, puissante sur ce qu'est la littérature, dans c'est absolument exceptionnel.
Elle ne nous perd jamais, mais il y a vraiment une phrase qui est comme un motif dans le roman, d'une Mexicaine qui répète à ces deux jeunes voyageuses, vous ne comprenez rien. Bernard.
Moi, elle m'a perdu à la page 80, c'est-à-dire que le bouquin démarre formidablement avec ces deux femmes donc, qui partent au Mexique et dans l'idée complètement folle d'aller rencontrer le sous-commandant Marcos, qui est un être réel, mais quasiment irrattrapable. Je suis allé au Chiapas, je voulais le rencontrer aussi, j'ai pas réussi personnellement.
Il y a voilà. Un potentiel érotique, certain.
Paraît-il, effectivement, tout à fait, Patricia.
Et un potentiel littéraire, ouais.
Aussi.
Un immense écrivain.
Alors, je n'ai pas lu le commandant Marcos, mais le fait est qu'au départ, l'idée est géniale. Donc je me dis, ça va être top et tout ça. Et puis après, c'est la fin du monde. C'est-à-dire qu'après, il y a une incise de 100 pages sur Artaud, que je n'ai pas lu, je suis désolé, hein, j'ai pas lu Artaud, et c'est chiantissime, excusez-moi, mais voilà, Artaud dans les années 30, entre les drogues diverses qu'il ingurgite, ses délires, enfin, etc., bon, ok. Et ensuite, on oublie Artaud, et les revoilà, qui vont à ce grand rassemblement féministe au Chiapas, qui est d'un comique, mais absolument final.
En quoi c'est comique ?
Ah ben, moi, personnellement,
des femmes qui parlent des violences qu'elles subissent.
Je dis que ces deux femmes venant du monde occidental, l'une d'Amérique, l'autre d'Europe, et qui essayent péniblement de s'intégrer auprès des indiennes du Chiapas, et en plus zapatistes. Donc,
mais déjà, elle n'est plus avec son amie quand elle
est au
Chiapas.
Alors, elle n'y est plus, effectivement, mais son amie est présente, en tout cas, dans sa tête. Elle y est avec son enfant.
Non, mais il a dit qu'il avait été perdu dès la page.
Toute la fin, les 100 dernières pages que j'ai lues, hein, je suis allé au bout sans problème, ça a des qualités littéraires assez évidentes, mais très honnêtement, justement, quand tu disais ça fait des zigzags, ça part à droite, ça part à gauche, etc., moi c'est ça fondamentalement qui m'a dérangé. Elle serait restée sur sa ligne de base, ça aurait fait peut-être plus court, mais ça aurait fait un top bouquin.
Quel livre tu as lu, toi, Arnaud ?
Un livre où il y a du Chiapas, le sous-commandant Marcos, une pincée d'Artaud. Vous voyez, je suis content comme on me dit, tu vas manger un cordon bleu avec du jus de viande et de la purée. Je sais que je vais aimer, il y a tous les ingrédients.
Que tu as posté sur Instagram.
J'avais, il y a 30 ans, puisque de l'insurrection zapatiste date de 1994, j'avais une immense admiration immédiate pour, encore une fois, les zapatistes, leur insurrection, le sous-commandant Marcos. Donc, que Neige Sino revienne sur cette histoire, évidemment, je suis très heureux. Les deux reportages, parce qu'on peut parler de reportages qu'elle fait deux fois au Chiapas, donc où elles sont,
oui,
elle est invitée avec d'autres, la première fois avec son mari et son enfant qui a 2 ans, et puis la deuxième fois avec juste elle, où elle vient seule, sans sa fille ni son mari. Je trouve que ce sont deux reportages magnifiques sur ce qu'est le Chiapas et les apatistes qui expliquent, et d'ailleurs, comment dire, avec beaucoup de distance, hein, elle n'est pas non plus dans la ferveur révolutionnaire, c'est pas exactement ça, et c'est beau. Alors, c'est un livre rhapsodique, hein. Il y a beaucoup de questions de tresses, parce que les Mexicaines sont souvent coiffées de manière tressée, et elle aussi, il y a des tresses dans son écriture, hein. C'est une écriture rhapsodique, comme l'était Triste Tigre aussi. Si vous voulez, c'est comme on dit dans les écoles privées de Pau, elle vient... Nessino fait sa confirmation.
Je suis pas sûr que ce soit le parallèle le plus heureux parler de Nessino.
Non, c'est pour ça que je le fais justement.
C'est parce qu'elle n'est
pas heureux. Mais donc elle fait sa confirmation et on entend vraiment sa voix. La manière dont elle parle de ses deux amis, il y en a deux, hein. Le livre a quand même un centre de gravité très clair. C'est que ça parle du Mexique. Ça parle aussi de l'identité mexicaine. Et le problème de Nessino, c'est que elle est à la fois mexicaine, puisque, elle, comme elle l'explique, elle a obtenu la nationalité.
Oui, et ça ne suffit pas, tu vois bien.
Exactement, hein. Exactement, ça ne suffit pas. Tout le livre pose une question essentielle, qu'est-ce qu'est une identité ? Et là-dessus, c'est totalement remarquable, avec très peu d'effets, et quand même toujours de la surprise, puisqu'on change d'un genre à un autre. Bon, moi, le passage sur Artaud, moi j'aime beaucoup Artaud, c'est peut-être celui qui m'a semblé le plus faible et le plus scolaire dans l'ensemble du livre. Voilà.
Patricia ?
Alors, ça ne vous étonnera pas, je ne suis pas d'accord au sujet d'Artaud avec Arnaud. Au contraire, moi, j'ai été d'abord, c'est le point de départ du livre. D'ailleurs, il dit pourquoi le Mexique ?
Non, pas le point de départ
livre. Mais si, pourquoi le Mexique ? Parce qu'il y a eu Artaud, qu'elle l'avait lu et qu'elle l'avait même étudié très sérieusement. Et je trouve que, justement, c'est d'ailleurs drôle qu'il soit question d'Artaud, dont on parle jamais dans deux des livres. Adèle Lyon en parle, mais pour d'autres raisons.
Absolument.
Pour sa folie, on en parle toujours parce qu'il a été interné. Or, ça a été un type, mais un visionnaire, un génie, véritablement. Ce qu'il dit, non, mais ce qu'il a dit, et elle en parle très très bien, là. Alors moi, j'étais très sensible à ces pages-là, sur notre société de consommation et de destruction, sur la crise climatique et tout ça.
Enfin, sur l'oubli de notre lien avec la nature.
Exactement.
C'est un discours très contemporain.
C'est formidable. Alors, Bernard, tu dis que tu as été perdu. Moi, je comprends un peu qu'on puisse être perdu. En fait, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle fait elle-même, c'est quitter la rive, en quelque sorte.
Ouais.
C'est voyager d'une ignorance à l'autre, c'est vivre en quelque sorte sans préméditation. Ah. Et c'est au fond ce changement en soi que raconte le livre. Quand elle, après le début, qui est un road trip donc finalement assez classique, dans lequel on a la trouille d'ailleurs, parce que quand elle se retrouve dans un hôtel louche et qu'elles ont les types qui sont grattent à la porte, elles n'emmènent pas large, les deux. Et puis vient le moment de ce qu'au Mexicain on appelle le desmadre, c'est-à-dire le sans-mer et où elle perd la boussole. Et c'est là que ça devient, je trouve, extrêmement intéressant. Et sur l'appropriation d'une culture aussi, moi, ça m'a fait sourire quand elle dit, évidemment, on ne peut pas s'approprier la culture des autres. Imaginez un Japonais qui viendrait vous raconter l'Holocauste. On ne l'accepterait pas de sa part. Et puis, est-ce qu'on dit un Indien, un indigène ? Là aussi, elle raconte un passage très drôle où elle a connu des Amérindiens qui écoutaient du heavy metal et qui s'habillaient comme des Américains et qui vivaient par ailleurs dans une réserve.
La Realidad de Neige Sino est publiée chez POL. Lire m'ennuyait, c'est la première phrase de Mauvais élève, livre autobiographique de Philippe Villain, déjà auteur de 13 récits ou romans et de nombreux essais. Mauvais élève retrace d'abord l'enfance de l'auteur, un gamin grandi dans un milieu ouvrier et d'employé de bureau. L'alcoolisme du père détruit tout, la mère fuit dans le travail et on destine le jeune Philippe Villain à un BEP dactylo jusqu'au jour où il découvre la lecture. À partir de là, il a l'intuition que la littérature peut, je cite, le sauver, et il aspire d'ailleurs à mener une vie romanesque. Sa vie prend précisément des allures de roman lorsqu'il rencontre une écrivaine célèbre, ce sont les mots de la quatrième de couverture, lui-même l'appelle parfois l'écrivaine, mais il la nomme précisément la plupart du temps, c'est Annie Ernaux, elle a 30 ans de plus que lui, et elle va changer sa vie. Tout en célébrant l'écriture d'Annie Ernaux, Philippe Villain raconte une relation de domination. Il fait le portrait d'une femme bourgeoise et, par exemple, il a cette phrase pour la description d'un déjeuner. En milieu populaire, c'est elle l'intruse. Elle a écrit sur lui, il a, et donc continue d'écrire sur elle, et je cite Philippe Villain à nouveau, La question n'est pas tant de savoir ce que nous révélons d'autrui, mais avec quelle intention nous nous emparons de ces révélations. Arnaud.
Alors, je pense que ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait appeler un revenge book, comme on parle de revenge porn. C'est très intéressant. Le livre ne m'a pas vraiment plu pour des raisons que je m'expliquerai tout à l'heure. Mais,
il faut que ça prenne des heures.
Mais non, ça ne prend pas des heures. Mais le problème, c'est que c'est quand même un peu complexe, cette histoire. Quoi.
Pas tant que ça.
Il y a des très belles pages sur son père. Ils ont été abandonnés. Lui et son père ont été abandonnés par la mère. Ils se cherchent une mère. Il y a une très belle page, moi, qui m'a fait sourire, hein, je le dis très honnêtement, où il croise Marguerite Duras.
Hein, avec
avant
Yann
de croiser Annie Ernaux, il croise Marguerite Duras. Heureusement, Yann Andrea, qui était à l'époque avec Marguerite Duras, a veillé au grain, comme le raconte Philippe Villain, et lui a dit « C'est bon, là, toi, je... Mais, et donc, c'est la même chose qui s'est passée ensuite avec Annie Ernaux. Donc, il y a bien l'idée. Et d'ailleurs, moi, je trouve que le portrait qu'il fait dans ce livre d'Annie Ernaux n'est absolument pas méchant. J'entendais... Ah oui, non, je le trouve pas du tout méchant. Bon,
elle avait l'allure endimanchée d'une bourgeoise de province. Enfin, pardon, mais c'est extrêmement méprisant.
Je ne pense pas. C'est pas parce qu'elle a une belle maison, comme Philippe Villain l'a décrit, qu'elle est une transfuge de classe. Je ne pense pas qu'Annie Ernaux ait été une transfuge de classe. Elle est toujours de sa classe. Qu'elle ait évolué dans sa classe, c'est une chose.
Mais le problème,
ce n'est pas changer de classe.
Pas vraiment de la même classe, au fond.
Ah bah non.
C'est-à-dire qu'Annie...
Et ça, c'est toi qui le vois.
Ah bah non,
c'est ton problème avec la vision.
Ah mais complètement. Il estime même que lui est davantage transfuge de classe qu'elle, puisqu'il écrit, par exemple, la pauvreté. La pauvreté, elle ne l'avait connue que par procuration, par le biais des clients dont mes parents auraient pu faire partie.
Mais dans ce cas-là...
Donc il y a l'idée de qui est plus transfuge que l'autre.
Dans ce cas-là, être transfuge de classe, ça revient à la question qui a la plus grosse
classe,
qui est le plus grand transfuge de classe des deux. Ça n'a aucun sens.
Bah, c'est ce qu'il fait dans son livre. C'est exactement.
Je sais bien, mais c'est aussi une lecture qui a été imposée parce qu'il y a une véritable détestation d'Annie Ernaux dans ce pays.
Tenons-nous-en au texte.
C'est pas extrapolé. Je veux dire, cette lecture, c'est pas une extrapolation à partir du texte. C'est ce qu'il écrit textuellement. Il le dit encore. Il dit Annie Ernaux n'avait connu que des problèmes de bon élève. Enfin, on parle d'une femme qui a quand même raconté son viol dans Mémoire de fille, qui a raconté son avortement dans L'événement. Enfin, c'est pas que des problèmes de bon élève. Et, donc Annie Ernaux, elle dit qu'elle écrit pour venger sa race. Lui, là, je trouve que dans ce livre, Philippe Villain écrit pour venger son orgueil blessé, puisqu'il reproche, il cite même des passages, il reproche à Annie Ernaux d'avoir fait un portrait de lui comme d'un plouc. Il cite notamment, enfin, il fait référence à un passage du Jeune Homme, donc un des derniers livres d'Annie Ernaux. Or, elle le traite pas du tout de plouc. C'est pas ça, ce qu'elle écrit. Elle écrit « Il y a 30 ans, je me serais détournée de lui. Je ne voulais pas alors retrouver dans un garçon les signes de mon origine populaire, tout ce que je trouvais « plouc » entre guillemets, et que je savais avoir été chez moi. » Donc, au contraire, elle voit en lui une sorte de double.
Moi, ce que j'ai senti, c'est
Moi, je trouve qu'il y a une acrimonie, quand même, dans ce livre.
Non, moi, j'ai trouvé, au contraire, qu'il y avait beaucoup d'amour pour Annie Ernaux, toujours. Vraiment.
Elle l'introduit en littérature. Ce qu'il lui doit, elle lui a ouvert les portes.
Patricia.
Il le dit très peu, ce qu'il lui doit. Il le dit très peu. Il y a une ellipse assez pudique sur la façon dont il est publié chez Gallimard pour son premier roman.
En tout cas, il a cette formule, dit « Je voulais croire qu'Annie Ernaux ne faisait pas partie de ces intellectuels ambivalents ». Donc, il sous-entend quand même que tout ce qu'elle défend politiquement dans ses livres relève aussi de la posture. Patricia.
Moi, je vais être un petit peu entre vous deux. C'est-à-dire que moi, il y a un clair-obscur par rapport à Annie. Je suis centriste, moi. Par rapport à... Enfin, pas politiquement, mais je veux dire dans...
Arrête, politiquement aussi.
Oh, ça va. Non, mais tu te... Il n'est pas possible, ce mec. Parce que je trouve que, justement, parce que c'est assez nuancé, je ne l'ai pas ressenti, moi, comme le type qui veut se venger, après tout, quand bien même il l'aurait voulu, Annie Ernaux, moi j'ai pas lu le livre qu'elle a écrit sur lui, mais elle en a écrit un sur un diplomate russe qui venait la voir, qui a été terrible, auquel, et j'ai lu la réponse du russe en question, et qui n'était pas du tout d'accord avec elle. Donc on peut pas non plus dire ça. Il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. Mais c'est précisément l'histoire que tu racontais.
Oui, on est dans la littérature.
On est dans la littérature. Romans. Mais ce que tu racontais de ce déjeuner précisément avec un sans-papier, je crois, et une femme française où elle est comme une intruse, c'est parce que je pense aussi que, si tu veux, quand tu es dans... elle est écrivaine à la limite maintenant, avant tout. Elle a fait du français, de la langue, sa colonne vertébrale. Bien sûr, elle est reçue partout comme une madone presque. Enfin, c'est, et encore, je pense qu'il a, évidemment, leur histoire s'est passée avant qu'elle n'ait, reçu le Nobel. Donc évidemment, elle arrive comme une star, et évidemment, lui, on ne le regarde pas. Et bien sûr que si ça avait été le contraire, si ça avait été le grand écrivain avec une jolie pépé à côté, on ne les aurait pas considérés de cette manière-là. Je trouve que c'est surtout ça qui veut dire, c'est surtout ça qui pointe. C'est la honte, il y a une honte sociale, mais il y a aussi une autre honte dont
oui,
il
du
parle.
Couple qui forme,
du
avec
couple
une femme
qui
plus
forme.
Âgée, un homme
et
plus
ça,
jeune.
Je trouve que c'est quand mais, même vachement bien fait.
Et ça, c'était déjà le sujet du jeune homme, absolument. D'une femme qui a 30 ans d'écart avec son amant. Bernard.
Je trouve que les très belles pages du bouquin de Villain sont les pages où il se raconte avec ses parents. Ouais. Parce que là, il y a un relationnel qui est très bien décrit. Il a une belle plume, hein, ce gars-là, objectivement. Ouais. Il est pas manchot, il écrit bien. Et puis, il y a tout le cœur du bouquin, qui est ses 5 ans dans le lit d'Annie Ernaux, et pas que dans le lit, à vivre avec elle, qui sont, contrairement à ce que disait le camarade, je trouve assassines pour elle. Elle en ressort... moi, j'ai jamais trouvé que c'était quelqu'un de très sympathique, Annie Ernaux, mais alors là...
On s'en fout qu'on la trouve sympa ou pas, ce qui compte, c'est ce qu'elle écrit.
Mais oui, mais n'empêche, quand même. Elle peut écrire ce qu'elle veut, elle a aussi un comportement social qui est très bien décrit dans les repas, dans les voyages...
Non, mais attends, etc. Nous, tu nous emmènes en voyage, tout le monde pourra te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce groupe de masques et la plume ?
Non.
Ils se prennent pour qui ?
Non,
c'est,
mais pas du tout.
C'est enfin, ce qui s'est dit à Brive.
De petits bobos parisiens. Non, mais évidemment.
Malgré tout, Patricia, elle n'en sort pas grandie, Madame Ernaux. Voilà.
Mauvais élève de Philippe Villain est publié chez Robert Laffont. On va parler maintenant d'un premier roman d'une autrice de 30 ans et qui est par ailleurs chercheuse en études cinématographiques, enseignante et chef cuisinière, je crois. Elle s'appelle Adèle Yon, Yon, voilà pour les présentations, et elle signe une enquête familiale sous le titre « Mon vrai nom est Elisabeth ». Elisabeth, qu'on appelle aussi Betsy, est le prénom de l'arrière-grand-mère d'Adèle Yon. C'est une femme que sa famille n'évoque jamais, une vie passée sous silence, et Adèle Yon va chercher à en savoir plus. Par inquiétude d'abord, parce qu'Elisabeth a été diagnostiquée schizophrène, et l'autrice se demande si la maladie mentale se transmet de génération en génération. Et elle découvre qu'Elisabeth fut internée de force et lobotomisée à la demande de son mari. Pour déployer cette enquête, Adèle Yon réussit à composer un roman qui mêle récits à la première personne, photos, documents médicaux, compte rendu d'entretien avec ses proches. Et puis il y a la correspondance entre Elisabeth et son mari André dans les années 40, avec André qui lui écrit « Sans doute vous êtes libre, mais jusqu'à un certain point seulement, car je suis votre chef, la Providence m'a institué telle. » Patricia.
C'est un livre absolument époustouflant. Moi, je dois dire que j'en suis sortie sonnée. Elle a la fureur contagieuse parce que on se met en colère. Enfin, chercher les plus fous, hein, parce que il y a quand même quelques psychiatres et des chirurgiens qui sont complètement tarés. Il y a un type, l'américain qui fait le tour avec sa roulotte. Il va
pour,
il a un pic à glace et il fait des lobotomies comme ça vite fait sur le coin. Enfin, bon, c'est absolument hallucinant. Sur le plan de la forme, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est polyphonique, c'est un mélange d'autobiographie, d'enquête, de recherche historique qui mêle les temps, les générations, les points de vue avec une minutie mais obsédante. Il y a de l'invention, mais avec un I majuscule, c'est-à-dire pas au sens où elle invente des choses et elle raconte des carabistouilles, c'est pas du tout ça, mais elle malaxe la réalité. Les carabistouilles, j'adore ce mot. Okay. Mais et puis je peux dire qu'au Scrabble, c'est vachement ouais, pratique.
Mon compte triple.
Et elle malaxe en fait la réalité pour en faire jaillir une étincelle. Et à un moment, il y a une scène très importante, je trouve, à la fin du livre, où elle rencontre la nièce de Betsy, qui est une sculptrice, qui dit « Tout le noir qui est en moi », c'est elle qui le dit donc à propos de son art, « Tout le noir qui est en moi, je l'ai mis dans la terre, il n'y a que la création qui peut nous faire survivre, je vis dans la survie, et après tout, beaucoup d'artistes le disent, ce n'est pas la pire des façons de vivre, c'est l'aventure. » Et bien voilà, ce livre-là, là, c'est l'aventure de la création littéraire, avec une vérité qui n'est pas au bout, parce que de toute façon, plus elle fouille et plus la vérité se dérobe. Pourquoi est-ce que tu te moques de ce que je dis ?
C'est l'aventure. Alors, on dirait du Claude Lelouch. C'est l'aventure.
Mais non, oula. Mais elle le dit elle-même. Je te signale
Lobotomie, c'est l'aventure.
Je te signale qu'elle dit que c'est cette femme, cette sculptrice qui dit c'est l'aventure.
Est-ce que t'es entré dans cette aventure, Arnaud?
Je suis rentré, oui.
Il n'en est jamais ressorti, le panneau.
Mais non, mais il y a des aspects psychologiques, psychiatriques qui ont dû... Non,
bah,
mais
tu m'étonnes. Bah, évidemment qu'il y a des aspects...
Non, mais évidemment, non, mais ça a dû
quand on parle
plaire.
De lobotomie, si tu veux, là, on est au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a été la psychiatrie. La lobotomie a été arrêtée en 1968, de mémoire, quand sont arrivés les premiers médicaments anxiolytiques, mais pas simplement, qui ont servi finalement de camisole chimique par rapport aux schizophrènes.
Mais bon, les électrochocs existent
toujours. Le livre se présente comme une espèce de dossier. Hein. Mmh. On le lit, il y a plein de documents. On lit ça comme soit un dossier médical, soit un dossier judiciaire. Il y a des documents qui sont imprimés de façon très pâle, sur lesquels je me suis arraché les yeux. Je déteste m'arracher les yeux, mais enfin... Donc comme si c'était des vieux documents qui auraient traîné, etc. Donc on lit ça comme un dossier, donc on joue au docteur, en fait. Hein, ou on joue au psy. Moi, ça m'a rappelé vraiment le boulot, hein, par ailleurs,
pour
tout vous dire. Mais bon, il y a un problème, il y a un gros problème, à mon avis, si vous voulez, c'est qu'il y a un problème autour de la schizophrénie. C'est que le point de départ, c'est que cette autrice, donc, parce qu'elle fabrique une thèse, je crois, un mémoire sur les fantômes au cinéma, pense qu'elle est schizophrène. Et là, dans sa famille, on lui dit, attention, terrain fragile. Donc, il y a l'arrière-grand-mère qui a été... Donc, comme si on pensait que la schizophrénie est une maladie génétique qui sauterait comme un poisson terre du Mexique, trois ou quatre générations. Il y a une espèce d'aberration.
Elle démonte cet argument.
Oui, mais bien sûr.
Elle ne le dément pas, parce que nous, on est supposé enquêter avec elle.
Non, mais elle démonte l'argument. Elle démonte l'argument selon lequel la schizophrénie est héréditaire.
Le poteau rose, c'est que cette dame qui écrit des lettres merveilleuses à son mari, merveilleuses, n'est absolument pas schizophrène. Une schizophrène ne peut pas écrire ses lettres merveilleuses.
Adèle Lyon n'en doute pas non plus, je pense.
Et
le livre démontre tout le contraire.
Personne ne doute, finalement, de...
Oui, mais elle a quand même passé 17 ans dans un hôpital psychiatrique.
C'est vain. On lit une enquête alors qu'on connaît déjà le résultat.
Non, mais tu peux
Bernard,
pas
dire ça.
Non,
alors là, ça va pas
j'ai,
du tout,
j'ai trouvé
argument.
Que c'était un livre d'une inventivité extraordinaire dans sa rédaction, dans sa construction aussi, et puis qui vous montre que c'était le Moyen-Âge il y a 40 ans encore. Enfin, on faisait des trous dans la tête des gens en essayant de les sauver.
Et on a les photos à l'appui. Hein,
et oui, on a les photos, les mecs vous foutent.
Et bon, aujourd'hui, on fait des trucs de comme la
c'est hallucinant.
On n'a pas énormément progressé.
Oh non, on fait plus
Bernard. Absolument pas schizophrène, elle pouvait parfaitement être intégrée. Elle a eu la malchance de tomber sur un salopard qui se prénommait André, qui l'a maltraité d'entrée, qui l'a toujours considéré comme de la merde en substance et qui lui écrivait d'ailleurs presque noir sur blanc. Et elle a coulé pendant toutes ces années.
Tu sais, Paul Claudel n'a pas mieux fait avec sa sœur. Hein,
absolument, tout à fait.
On pense à Camille Claudel d'ailleurs.
Et toute la famille a constaté en disant, bon écoutez, dans les familles françaises dans les années 50, c'est pas à nous d'intervenir et c'est fini. Et elle a fini en HP. Mais n'empêche que le bouquin est quand même brillant.
Dans sa construction et dans la façon dont l'enquête se déploie précisément, où ça part d'une inquiétude et où on arrive à une relation entre un homme et une femme. Elisabeth.
Bah déjà, c'est un livre qui a un très très beau titre. Mon vrai nom est Elisabeth, je pense qu'on n'a pas suffisamment insisté sur ce point.
Alors juste après, on va parler des chats, ça va te concerner aussi.
Et le reste a confirmé la beauté de ce titre. Non, c'est un livre absolument terrassant, sidérant. Je suis complètement en désaccord avec toi Arnaud, je ne sais pas ce que tu avais pris avant de lire ce livre. Enfin, c'est pas possible.
Oui, on se demande.
Et pourquoi soudainement j'aurais pris quelque chose?
Oh, je plaisante. Non, parce que vraiment, la façon dont elle monte tous les différents documents qu'elle intègre dans son livre, je trouve qu'elle le fait avec une maestria absolument éblouissante. Il y a un côté un peu Kill Bill, en fait, dans ce livre. Et effectivement, il y a une colère, il y a un désir de vengeance qui habite ce livre et qui finalement est un dynamitage en règle de toutes les institutions. Je veux dire, la famille, on commence par la famille qui vit dans un déni, dans un...
C'est le portrait d'un milieu aussi.
D'un milieu, un milieu bourgeois, catholique. C'est aussi le dynamitage, évidemment, de l'institution médicale, de la psychiatrie et même de l'université, puisqu'encore une fois, ce texte, c'est sa thèse. Et on voit bien qu'elle est sortie de tous les carcans, de toutes les conventions propres à ce type d'écrit. Donc non, je trouve que c'est un livre absolument formidable. Il y a des scènes folles, je n'en dirai pas plus, mais la scène du mariage.
Ah oui.
C'est complètement fou. Oui. Donc non, lisez ce livre.
50 pages de moins, juste, éventuellement. Bon.
Mon vrai nom est Elisabeth Dadel-Yon et publié aux éditions du Sous-Sol. Le livre suivant est signé Pascal Quignard, qui a obtenu ses plus grands succès avec Tous les matins du monde ou Villa Amalia, adaptés tous les deux au cinéma. Il y a sa grande série qui à ce jour compte 12 volumes réunis sous le titre Dernier Royaume. Et voici donc Trésor caché. Ça commence comme un conte. Louise a une cinquantaine d'années et elle découvre un premier trésor en enterrant son chat. Les chats très présents dans le roman sont aussi les trésors de la vie de cette femme, spéciale dédicace à Elisabeth Philippe. Et en creusant la tombe de cet animal, Louise trouve des pièces d'or, un lingot, des bagues anciennes, bref, une fortune qui va lui permettre des voyages jusqu'aux îles de la baie de Naples. Là, sur l'île de Procida, puis d'Ischia, Louise vit un amour avec un homme d'une soixantaine d'années qui s'appelle Luigi, mais aussi Ludwig, Ludovico, Louis, plusieurs prénoms et plusieurs vies, comme les chats. La vie de Louise est marquée par l'abandon de sa mère, par l'amour, puis le deuil des hommes qu'elle a connus. C'est un livre où il est écrit que le chagrin illumine étrangement le monde. As-tu été sensible à cette illumination, Arnaud ?
Absolument.
Ah, on va mieux.
Mais en fait, plus je lis Quignard, plus je l'aime. Alors, j'ai une préférence. J'ai une préférence pour l'essayiste, même si c'est pas du tout le mot qui convient pour parler des écrits qui ne sont pas romanesques de Quignard. Le romancier moins. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé un roman qui s'appelle Terrasse à Rome et qui est très proche finalement de celui-là parce que dans les deux cas, c'est le portrait, à mon avis, d'une femme libre et en même temps, c'est un livre vivant sur la mort. Alors évidemment, c'est le grand romancier des chats qui sont extrêmement importants parce que ils sont aussi, eux, le symbole de la liberté. Elle-même se conduit comme une sorte de chatte, si l'on peut dire. Et il y a des scènes absolument magnifiques. Il est dans une prose poétique où l'eau joue un rôle essentiel, mais il y a une scène de tremblement de terre qui est absolument prodigieuse. Et il y a quelque chose d'une sorte de magie qui s'empare, hein, vraiment. On est en train de lire un grand roman.
Alors moi, j'ai démarré le Quignard et puis au bout de 30-40 pages, je me suis dit, j'irai jamais au bout, ça va être un cauchemar.
Pourquoi ?
Parce que l'histoire ne m'intéressait pas à la base. Si, j'adore les chats. Heureusement, j'adore les chats, vu qu'ils sont omniprésents. Si vous n'aimez pas les chats, vous n'ouvrez pas le Quignard, parce que sinon, c'est un flingage garanti. Mais,
ou alors, vous allez peut-être les aimer grâce à lui.
Oui. C'est possible. Donc je l'ai repris et j'ai pas regretté parce que l'histoire se développe comme elle se développe, c'est le choix du romancier. Mais surtout, d'abord, il y a la baie de Naples et ses habitants qui est fabuleusement décrite. Et il y a cette histoire d'amour qui est terrible puisque presque d'entrée, cette femme a le sentiment d'avoir rencontré l'homme qui va l'accompagner jusqu'au bout et qui au bout de 3 mois lui dit « Mais moi je suis bouffée par le crabe, j'en ai pour 6 mois ». Et donc c'est la fin de leur histoire qui a à peine commencé en quelque sorte.
Je précise qu'il ne s'agit pas de la fin du livre.
Non, absolument pas. Et d'ailleurs, ils arrêtent de coucher ensemble et ils commencent à se vouvoyer tous les deux alors qu'ils faisaient des galipettes toute la journée, etc., etc. Donc, l'histoire est sinistre, objectivement sinistre, mais on la suit avec plaisir parce qu'il a le talent de la raconter avec bonheur, je dois reconnaître. Alors, il y a un truc qui m'a complètement sidéré parce que, contrairement à Arnaud, je ne suis pas un grand amateur ni du tout de connaisseur de Quignard, mais le gars, il a écrit 87 ouvrages, Quignard.
Et
ils sont tous à la fin du bouquin d'Albin Michel. Comment peut-on, à l'âge qu'il a, avoir écrit 87 ouvrages ? Il en fait un tous les 4 mois.
Revenons à Trésor caché et plus particulièrement à son écriture. C'est-à-dire que quand même, il faut préciser que dans sa façon d'écrire, il passe du « je » au « elle » à l'intérieur d'une même phrase. Il passe du présent au passé simple de façon très « cut ».
C'est très déroutant.
Mais lui, il est libre aussi. Ouais. Il est aussi libre que son personnage.
Il est libre, Pascal.
Il a la souplesse, la grâce et l'élégance d'un chat. C'est un livre de chat. Il y a aussi une certaine préciosité parfois, mais quand un chat vous regarde de haut, vous pouvez vous sentir tout petit. C'est une approche d'esthète de l'existence et il y a là une continuité effectivement dans son œuvre. Il y a une famille, on peut dire, de ces personnages qui sont raffinés, réservés, cultivés, qui ont un certain étonnement face à la vie, mais qui savent se dépouiller intérieurement aussi. C'est ça que j'aime chez Quignard. C'est un livre extrêmement sensuel, je trouve, sensuel.
C'est un livre hédoniste. C'est un livre sur la mort, mais qui est très hédoniste. En fait, l'idée, c'est comment on vit avec les morts, comment on vit avec l'idée de la mort, et finalement, Louise et Luigi, qui sont presque des doubles l'un de l'autre, ils ont des prénoms qui se font écho, incarnent chacun une façon de vivre avec la mort. Luigi, qui se sachant malade et qui vient de perdre sa mère, se replie sur lui-même, et Louise qui, elle, continue à voyager, à aimer. Et tu parlais justement de ces allers-retours entre le passé et l'imparfait, du jeu au elle.
Le passé simple et le présent.
Exactement, ouais. Il y a un côté métempsychose finalement, où il utilise aussi des termes qui sont propres aux chats, comme ronronner, miauler, le pelage, pour décrire les humains, et inversement, comme s'il y avait des réincarnations permanentes. Je trouve ça très très beau. Moi, il y a juste une scène qui m'a un tout petit peu gênée, c'est ma seule réserve sur ce livre, que par ailleurs je trouve vraiment très bien écrit, très hédoniste, très sensuel, tout ce que Patricia a très bien dit. Il y a une scène dans laquelle la femme, donc Louise, qui a une cinquantaine d'années, rentre dans la chambre dans laquelle repose sa fille qui a 27 ans. Et là, elle dit « Oh, je voyais ma fille dénudée, nue sur le lit, son petit sexe minuscule. » Alors non. Non, ça, pardon, mais enfin, c'est quand même un peu compliqué de lire ça. Mais à part cette scène qui m'a vraiment, enfin, j'ai trouvé assez incongrue, je trouve que c'est un livre magnifique.
Sinon, il parle quand même bien du corps des femmes aussi.
Oui. Mais là cette scène est un peu.
Elle est à poil tout le temps et il le décrit très largement aussi. Ça a pas l'air de bon.
Trésor caché de Pascal Quignard est paru chez Albin Michel. On termine avec L'ombre portée, polar de Hugues Pagan, avec l'inspecteur Schneider que Pagan a mis en scène dès son premier roman paru en 1982. Dès son premier roman paru en 1982, ça fait donc 43 ans, et qu'on retrouve pour la quatrième fois. Nous sommes dans l'est de la France et l'on découvre le cadavre de trois hommes sans abri dans les cendres d'une ancienne menuiserie. Un homme avoue y avoir mis le feu, en échange de 500 euros. Schneider et un duo de policiers partent sur la piste des commanditaires. Les cadavres se multiplient, beaucoup. L'enquête nous fait croiser un chirurgien cardiaque et son cabinet de curiosité, un gourou, un garde du corps flippant, beaucoup, beaucoup de personnages aussi. Et l'époque du roman n'est pas précisée, mais je dirais fin des années 70, début 80. Bernard, toi qui écris chaque semaine sur le polar.
Alors, j'étais très très content, puisqu'il y avait un polar dans les 5 bouquins qu'on devait lire, donc je me suis dit, ça va être top. Ben non, malheureusement non. Et pourtant, Pagan est quelqu'un, j'ai à peu près tout lu. C'est un très bon prosateur. Il est réputé être l'un des meilleurs auteurs de romans noirs en France pour sa prose, qui est inexistante ici. C'est un livre paresseux. L'intrigue est totalement abracadabrantesque, mais alors totalement, elle part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Et alors l'écriture m'a dérouté parce que, autant j'avais pas du tout le souvenir de ça dans le précédent et dans ceux d'avant, mais là, c'est ultra daté, voire ultra sexiste. Par exemple, quand il va dîner chez un de ses collègues flics avec la femme du collègue en question, il dit qu'il est invité par dame machin, dame du nom de son mari. Enfin, c'est moyenâgeux. Enfin, c'est... Donc non.
Elisabeth,
eh ben, oui ou non? Oui, je ne vais pas sauver Hugues Pagan. Moi, je trouvais que c'était assez étouffant, voire un peu étouffe-chrétien. D'ailleurs, il y a un personnage qui s'appelle Chrétien.
Chrétien, oui.
Toute l'équipe de flics se retrouve souvent dans un resto qui s'appelle Les Abattoirs, où on mange, bah, comme dans les années 70, entrée, plat, dessert, puis pas des petits plats. Bah, moi, ce livre, ça m'a fait un peu cet effet-là. C'est-à-dire que tu le disais, Rebecca, il y a énormément de personnages, d'intrigues qui se croisent. On sait en plus d'entrée de jeu qui est coupable, on le sait, là je ne vais rien dévoiler. Et on a 400 pages pour savoir comment ce Schneider, avec son regard perçant de loup qui ressemble un peu à Clint Eastwood, un peu à Alain Delon, mon Dieu, comme c'est original, comment il va retrouver les vilains méchants, le grand mage, la grande prêtresse. Bon, c'est un peu lourdingue. Après, il y a une atmosphère un peu vintage, effectivement. On est toujours pris dans cette brume des cigarettes fumées à la chaîne par les flics. Il y a un peu toutes les figures obligées imposées du genre, le duo de coéquipiers, les plus jeunes, évidemment le médecin légiste un petit peu loufoque.
D'avant, je sais pas pourquoi.
Et c'était les mêmes.
C'était les mêmes flics. C'était les mêmes flics au même endroit. Sauf que l'histoire était meilleure. Ils étaient plus inspirés.
Non, là, il a voulu trop en mettre.
Il avait des fulgurances de style qui étaient remarquables. Moi, je me souviens avoir noté des phrases géniales. Là, j'ai rien noté du tout.
T'as noté des choses, toi, Patricia ?
Non, j'ai pas noté, mais j'ai du bol. Enfin, il a du bol, parce que du coup, je vais en dire un peu de bien, parce que j'ai pas lu Le Carré des Indigents. Donc, je suis arrivée vierge de toute lecture. Et alors, j'ai commencé à 9h du matin, et je l'ai fini à 21h, sans une goutte de gin, sans un verre de Clos Vougeot. et sans une cigarette. Parce que, effectivement, qu'est-ce qui clope ? Mais le fait de lire d'une traite, ça m'a sans doute aidée dans la mesure où je me suis un peu installée. J'étais un peu hors du temps et je me suis installée dans la lenteur du livre. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de lenteur. Alors, du coup, j'ai trouvé que ça ne traînait pas puisque j'étais vraiment dedans. Et que ce Schneider que je découvrais, dont j'ai appris qu'il l'avait fait mourir dans un livre. Et
dès son premier roman.
Voilà, qu'il l'a fait naître ensuite, avec sa vieille alpha bleu narval. Ben moi, je me suis dit, un mec qui a eu une vieille alpha, c'est
ça ne peut pas être totalement
voilà.
Mauvais.
J'ai vu Mastroianni à la place. Non, mais c'est quand même un type qui a une connaissance des rouages humains. Quand il raconte des interrogatoires, quand il raconte... Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, ça va. Bon, alors, je ne suis pas psychanalyste.
Le gars qui a la connaissance des rouages humains, si tu veux...
Je me tais, t'as qu'à parler. Allez, vas-y, parle. J'irai jamais te voir. Alors, je peux te dire, je n'irai jamais m'allonger dans ton cabinet. Jamais.
Arnaud, il y aurait un transfert.
Je suis totalement d'accord avec Bernard. Moi, c'est le premier... Malheureusement, c'est le premier Hugues Pagan que je lis. Donc, je suis mal tombé, visiblement. Hein. Donc, pas de chance. Ça me ressemble bien. Hein. C'est très mauvais. C'est très mauvais. C'est tout ce que je déteste dans le polar. C'est uniquement des archétypes. La ville écrit avec une majuscule. On dit, mais n'importe quoi. Donc, ça se passe dans les années 70, évidemment. C'est beaucoup plus simple. Un jour, Pierre Lemaître, on lui demandait pourquoi il écrivait plus de polar. Il dit, c'est devenu trop compliqué à cause de l'ADN, la géolocalisation, etc., la police scientifique. Dans les années 70, c'est bon, il n'y a pas de police scientifique. On peut raconter n'importe quoi, faire n'importe quelle intrigue, et lui, il fait vraiment n'importe quoi. C'est qu'il nous met tout, la secte, les problèmes immobiliers, enfin, on a tout, une espèce de gloubi-goulba, tout ça stylisé à la Jean-Pierre Melville. Moi, alors, je vais me fâcher avec mes amis critiques de cinéma, je n'ai jamais aimé les films de Jean-Pierre Melville, que je trouve, justement, de stylisé de façon... Ah, voilà
ah, ils sont,
voilà
ils ont
là,
la salle.
Là, ils là j'ai bon trouvé bon, le point, bon. Là, ça va, le courrier, ça va tomber. Donc,
non, mais c'est surtout que beaucoup d'auditeurs vont se dire « Ah, si c'est proche de Melville, je vais l'acheter.
» Oui, ben mais voilà, achetez. Vous aimez Melville ? Achetez-le.
L'ombre portée de Hugues Pagan est parue chez Rivage Noir. C'est l'heure de vos coups de cœur et on commence ce tour de table avec toi, Elisabeth.
C'est Permission de Saskia Vogel, c'est traduit de l'anglais par Valérie Leplouinec et c'est paru aux éditions de La Croisée. Alors c'est le premier roman de cette autrice américaine, Saskia Vogel. On y suit Echo, une actrice un peu ratée, paumée, qui vit à Los Angeles et puis après la disparition de son père, donc elle retourne vivre auprès de sa mère et là elle va faire la connaissance de sa voisine, Orly. Alors c'est très étrange, elle voit des tas d'hommes défiler chez cette voisine chaque jour, elle se demande bien ce qu'ils viennent faire et elle finit par apprendre qu'en fait ce sont les clients d'Orly, parce que Orly est une maîtresse dominatrice SM.
Qui,
tu vois, ça, je t'ai récupéré
la
connais,
oui.
Là.
Orly, voilà. Oui, est très célèbre.
Voilà, et elle vit Orly avec son esclave qui s'appelle Piggy et qui est fétichiste
même, hein.
Des pieds. Un peu de sérieux. Alors, tout ce que je viens de dire, on pourrait penser que c'est au choix glauque ou graveleux. Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est un roman, au contraire, extrêmement profond, doux, poétique, qui est vraiment porté par une écriture un peu ouatée, qui avance par vagues, alors tour à tour des caresses ou des coups de fouet. Et c'est vraiment un très, très beau livre sur le désir. Et si vous aimez Emma Klein, John Didion et Sacha Mazor, eh bien, vous aimerez ce livre.
Quelle référence ! Permission de Saskia Vogel aux éditions de La Croisée. Bernard ?
Je vous recommande un polar, puisque c'est mon fonds de commerce. C'est un bouquin merveilleux qui tombe à l'occasion des 20 ans de ce merveilleux éditeur, Gallmeister. Donc, c'est un gars qui s'appelle Chris Offutt. C'est un Américain qui a écrit La Loi des collines. C'est sorti au début du mois de février. Et c'est le troisième tome d'un triptyque avec le même héros, Mick Harding, qui est un policier militaire, qui, dans ce troisième tome, prend sa retraite. C'est-à-dire qu'il quitte l'USA et il rentre chez lui dans le Kentucky. Alors c'est du rural noir américain, mais de très très haute volée. Il va retrouver sa sœur qui est shérif d'un bled. Évidemment, il y a des morts qui s'entassent les uns au-dessus des autres. Voilà, donc c'est le troisième tome, les deux premiers étant les gens des collines et les fils de Shifty. Celui-là, c'est la loi des collines chez Gallmeister et c'est tip-top.
Et de Chris Offutt. Arnaud ?
C'est d'un écrivain qui nous vient de Ponto Combo, du Pays d'Oz, et même aussi du Masque et la Plume. Vous avez sans doute reconnu Jean-Louis Aisine, qui publie un nouveau roman, alors qui porte un titre vraiment totalement aisinien. Ça s'appelle La Chaise. Alors pourquoi La Chaise ? C'est parce qu'il raconte qu'à l'âge de 54 ans, quand même, il décide d'apprendre à jouer du violoncelle, qui est le seul instrument dont on peut jouer qu'assis. Il faut une chaise pour jouer du violoncelle. Et c'est un roman absolument merveilleux sur le violoncelle, où j'ai appris que c'était l'instrument qui reproduisait le plus parfaitement la voix humaine. Et comme il a écrit les Taiseux, Jean-Louis Aisine, en 2009, je crois, c'est pas d'hier, on comprend pourquoi il s'est mis au violoncelle, pour parler, parce qu'il est né de père inconnu et d'une mère qui elle-même est née de père inconnu. Je vous le dis en toute amitié, c'est une splendeur.
La Chaise de Jean-Louis Aisine, paru chez Gallimard. Patricia.
Moi, je suis assez d'accord avec Arnaud. Alors, c'est aussi un roman étranger. Là, ça, c'est le Livre rouge des ruptures, paru chez Robert Laffont, de Pirko Sessio, traduit du finnois par Sébastien Cagnoli. Et c'est le dernier tome d'une trilogie. Ça commence par un manuscrit qui s'efface. Vous savez, c'est l'horreur absolue. Là, il y a visiblement quelqu'un qui vient de mourir dans l'escalier. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Un
manuscrit qui s'efface, c'est l'horreur. Et une autre histoire va apparaître. Le L, donc à la troisième personne, devient un jeu, et c'est la trajectoire d'une jeune fille qui va devenir écrivaine, femme de théâtre, qui va s'essayer à la politique aussi, découvrir une certaine sexualité. Elle rompt, elle poursuit, elle fait des choix, avec Helsinki en toile de fond qui est bouillonnante malgré le froid. Il y a une énergie de dingue dans ce livre et un enthousiasme inaltéré pour une femme qui maintenant a plus de 70 ans.
Le Livre rouge des ruptures de la Finlandaise Pirko Sessio, traduit par Sébastien Cagnoli chez Robert Laffont. Et dans les quelques secondes qu'il me reste, j'aimerais vous conseiller pour ma part un podcast dédié aux romans et aux films de Marguerite Duras dans une collection qui s'intitule Parcours critique et qui revisite les archives du Masque et la Plume. Et oui, c'est Jean-Marc Lalanne et Nelly Capriélian dont on attend le retour à cette tribune dans les prochains mois. Salut Nelly. Tous les deux donc ont tressé des extraits du Masque, des extraits de films, d'archives avec la voix de Duras pour raconter son œuvre et surtout pour raconter l'histoire de sa réception, les agacements, et c'est peu dire, les enthousiasmes enflammés, notamment de Bory, que Duras a provoqué à cette tribune. Et dans ce parcours critique, vous pouvez entendre longuement Jérôme Garcin, comme critique d'abord, avant qu'il ne devienne le chef d'orchestre de cette émission. Voilà, donc c'est une histoire de l'art, de la radio et de la critique. Parcours critique Marguerite Duras, vous pouvez l'écouter gratuitement sur l'appli de Radio France. Patricia Martin, Elisabeth Philippe, Arnaud Vivian, Bernard Poirette, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque et la Plume. Les prochains enregistrements auront lieu le jeudi 13 mars, toujours au Théâtre de l'Alliance Française. Nous débattrons de l'actualité du cinéma et de la scène. Guillaume Giraud réalise Le Masque et la Plume et c'était avec Delphine Baudet, Étienne Collin, Jean-Benoît Tétu et Laurie Sanchez aujourd'hui. Merci à Ilinka Negulesco qui coprogramme et prépare l'émission avec Nina Malray. Ma Bande et moi, vous retrouvons dimanche prochain sur France Inter, évidemment.